Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 22 avril 1999.
Pouvez-vous nous parler du travail intellectuel? Quelle est sa nature? Quelle est sa matière? Quelle est son œuvre? Un travail philosophique demande-t-il de s'achever dans une dissertation où la contemplation de la vérité suffit pour le finaliser? Là, voyez tout de suite, hein, que le travail intellectuel a des modalités extrêmement différentes. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner une méthode de travail. Chacun, on doit la découvrir pour soi. On peut donner en général, mais on la découvre chacun pour soi. Parce que rien n'est plus personnel que le travail intellectuel. Le travail artisanal, vous comprenez bien, varie suivant la matière qu'on doit travailler. On ne travaille pas le bois de la même façon que le fer. Il y a forgeron. Et les forgerons ont quelque chose de très particulier. Il ne faut jamais l'oublier. Le tempérament du forgeron. Et puis, il y a le charpentier, l'ébéniste, du bois. Vous voyez, il y a des métiers qui se définissent par la matière. Le travail se définit toujours par la matière. Pourquoi? Parce que le travail implique un devenir. Et le devenir est toujours à partir d'une matière. C'est pour ça que c'est très juste de poser la question. Le travail intellectuel, quelle est sa matière? La matière du forgeron, on le voit. La matière de l'ébéniste, ça se voit. La matière du dentiste, ça se voit. La matière du chirurgien, ça se voit. Des travaux invraisemblables. Quand on sort le cœur et qu'on le travaille pendant une heure, pour changer tous les petits tuyaux, les rajeunir. Alors on rajeunit une pièce et on laisse la vieille carcasse. Pas commode, ça. D'habitude, tout vieillit ensemble. Il y a des pièces qui vieillissent plus vite. On ne sait pas trop pourquoi. Parce que on devrait... Ah, ça, c'est le corps. On verra le corps après. La dernière chose qu'on voit sur la personne, c'est le corps. Et c'est très à l'ordre du jour. Vous avez deux thèses de vos frères sur le corps. Et c'est très à l'ordre. La culture sur l'intelligence, c'est normal. Alors, le travail intellectuel, le travail implique radicalement un devenir. Un devenir qu'il faut découvrir. Un devenir de l'intelligence. Tout travail, c'est un devenir d'intelligence. C'est pour ça que le travail... C'est le point de départ de ma vie intellectuelle. Et le terme, c'est la contemplation. Donc, il faut saisir, comme toujours, dans un devenir, il faut saisir. saisir le point de départ et le terme. Et c'est pour ça que je ne peux pas faire une théologie scientifique de l'Église, parce que je ne connais pas le terme. Je ne le connais que métaphoriquement, symboliquement. Je sais que le Christ doit revenir. Comment va-t-il revenir? Regardez l'écriture. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Il viendra comme. Et on ne l'annoncera pas par les journaux, ni par la radio. N'inquiétez pas. Ce sera de l'intérieur. C'est le paraclet qui vous l'annoncera. Comment? Je sais pas. Le point de départ de l'Église, les actes des apôtres. Et c'est vrai. Les actes des apôtres, c'est le point de départ. Et ils sont multiples, ces points de départ. Donc, vous connaissez le point de départ, vous ne connaissez pas le terme. Donc, vous ne pouvez que décrire l'Église, la théologie de l'Église implique une description. C'est un grand devenir. Ça change. Il y a des points fixes, les conciles. On ramène l'Église à l'infirmerie ou au garage. Et on prie le Saint-Esprit pour qu'il vienne resserrer les écrous ou les desserrer. C'est vrai. Où est-ce qu'on en est dans l'Église? Pour le savoir avec exactement, il faudrait savoir quand le Christ reviendra. Mais, si on sait exactement que le Christ revient le premier jour de l'an 2000, hein, c'est peut-être vrai. Je n'en sais rien. Je veux dire, on a tellement bien préparé l'an 2000 que ça ne m'étonnerait pas que le Christ revienne au début. Et c'est possible qu'il ne revienne pas l'an 2000, qu'il ne revienne que l'an 2100. Pour que personne d'entre vous n'assiste au retour. C'est possible. Vous en avez fait le sacrifice. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Parce qu'on aimerait bien tous être là. Ce serait tellement fantastique. Je ne peux pas savoir le devenir de l'Église scientifiquement sans connaître le terme. Alors, le travail, c'est toujours un devenir. Le Père et moi, nous travaillons toujours. Et le Père est dans le repos éternel. Parce que pour Dieu, travailler et se reposer, c'est la même chose. C'est pour ça que la vie apostolique implique la contemplation. Et au fond, un homme évangélique, la contemplation et le travail s'emboîtent et sont liés. Ce qui n'empêche pas qu'il a des exercices d'oraison et des exercices apostoliques. Et c'est la proportion de l'exercice de l'oraison et apostolique qui fait la différence entre une vie apostolique et une vie contemplative. Et ceci, c'est vrai, humainement parlant. Une vie philosophique et contemplative. Une vie philosophique. Une vie théologique et contemplative. Une vie apostolique implique la contemplation, mais implique une œuvre. Et quand on dit à Saint Jean, il n'y a pas d'œuvre propre, c'est pour montrer que S'il n'y a pas la contemplation, il n'y a rien. Et vous perdez votre temps. C'est vrai. Une œuvre apostolique implique une vie apostolique implique des œuvres. Alors, le travail intellectuel, c'est la découverte de la vérité. Et cette vérité historique, cette vérité politique, cette vérité éthique, cette vérité métaphysique, cette vérité mathématique sont différentes. Mais partout, il y a un travail pour nous conduire à cette vérité. Il y a un travail pour nous conduire à cette vérité. Cette vérité ne nous est pas donnée plénière, comme pour Platon. Platon ne travaille pas. Platon était un vieil aristocrate. Il avait des grands-pères qui avaient été empereurs. Et on voit très bien, il aime spéculer. Il aime être un artiste de la pensée. Aristote, son père était médecin. Il sait ce que c'est que le travail. Tout à fait différent. Alors, comprenez, le travail de recherche, ce que j'appelle en philosophie la topique historique. Je cherche ce qu'est la substance. Avant de la chercher moi-même, je me dis à quel moment le problème de la substance est posé. Je pose une interrogation. Et quand il s'agit d'un travail historique, la question du temps joue un rôle capital. À quel moment on a découvert ? Alors à ce moment-là, je fais de l'archéologie. Je vois que le mot est présent chez tel philosophe ancien. Est-ce que avant lui, ce mot était posé ? Oui. À ce moment-là, on fait un travail archéologique pour chercher quelle est la première pierre fondamentale. C'est de l'histoire, mais à propos d'un terme. Et en philosophie, c'est très important. Si je faisais de l'histoire, non pas une topique historique, philosophique, mais si je faisais de l'histoire, ce serait l'origine des grands événements. Il y a eu la guerre de 30 ans pour l'Europe, la guerre de libération pour les Amériques, et ainsi de suite. Et des guérillas, des petites guerres. Je cherche quelle a été l'occasion de s'élucider. Mais le conflit actuel, qui n'est pas commode à comprendre, de loin, et surtout à juger, qui a raison, qui a tort. Alors on met très vite des étiquettes, mais si on est sur les lieux, on voit que c'est pas commode. Et historiquement, je cherche les raisons de la lutte. Les raisons de la lutte, c'est que où il y a eu une agression. On a voulu arrêter cette agression. On s'est défendu. Guerre de défense. On met des obstacles. On réveille les gens pour qu'ils soient là, en arrêt. Ils arrêtent. Ou guerre offensive. Expansion. Pour l'équilibre du pays, il faut une guerre. Parce qu'il faut une victoire. S'il n'y a pas de victoire, on dégringole. Il faut réveiller les gens. Et ainsi de suite, vous voyez, il y a une recherche historique dans recherche de ce qu'est cette réalité. C'est le mot substance. Quelle est la signification de ce mot? Je cherche. Je vois que la première fois que le mot substance est apparu, ça avait telle signification. Et je vois que le mot substance, chez Aristote, a pris une extension très grande et une recherche très spéciale. Parce que avant la substance, il y a le mot nature. Quelle différence y a-t-il entre le mot nature et le mot substance? Historiquement, avant la découverte de la substance, il y a eu le mot nature. Le mot nature est sûrement le mot philosophique de la philosophie grecque le plus ancien, phusis. Tout était dans la phusis. Je cherche Thomas d'Aquin et le théologien de la nature ou le théologien de la personne. Et là, il y a une recherche de texte. Il y a une recherche de texte. Donc, il y a un travail sur les documents. On travaille les documents. Les textes. L'historien travaille sur les documents, sur les textes. Il essaie d'estimer, d'un point de vue critique, la valeur historique de ce texte. Alors, c'est encore un autre travail. La critique. Critiquer la valeur d'un texte. Est-ce que ce texte est premier? Ah, si je redécouvre le manuscrit. Ah, ça c'est merveilleux. Parce que ce manuscrit a été recopié. Et en recopiant, il y a eu des fautes. Le troisième a fait encore des fautes. Au bout d'un certain temps, on a complètement oublié le texte primitif. Et ce qui est très curieux, c'est que les fautes se communiquent plus fidèlement que le texte primitif. Je ne sais pas pourquoi. Alors ça, ce n'est pas une recherche historique. C'est une recherche critique. Pourquoi je suis plus facilement incliné vers le mal, l'erreur, que vers le bien? On a réfléchi là-dessus. Et le philosophe s'est dit, ah, le bien implique une causalité parfaite. Le mal implique une causalité imparfaite. Avant d'arriver au parfait, on touche à l'imparfait. Et donc, avant de copier fidèlement et intégralement, on copie imparfaitement. Et il y a plus de copieurs imparfaits que de copieurs parfaits. Et ça, on voit ça tout le temps. Il y a le katsos, c'est le copieur. Il y en a qui font ça scrupuleusement. Puis il y en a qui font ça. Alors, on n'est pas très éveillé le matin. On voit mal. Vous voyez, le travail spéculatif n'est pas le travail historique. Et ça fait des gens très différents. Le travail historique, ce sont les textes, les documents. Qu'est-ce qu'on a comme texte? Et l'ancienneté de ces textes, la qualité de ces textes, c'est capital. Et dans sa vie, il est bon, si on est très spéculatif, de faire un travail historique. Et si on est très historique, d'essayer de faire un travail spéculatif. Alors, au point de vue philosophique, tout de suite vous distinguez la méthode de travail historique, la méthode du travail spéculatif. C'est pas la même. Le travail historique a des méthodes qu'il faut respecter. Et ordinairement, aujourd'hui, en Sorbonne, ce qu'on donne avant tout, et ce qu'on vous donne quand on vous donne un travail de licence ou un travail à faire, c'est presque toujours un travail historique. Vous chercherez dans la Velle, pourquoi la velle refuse l'âme. Très beau texte de dissertation. Parce que c'est sûrement très au cœur de Merleau-Ponty. Pourquoi Merleau-Ponty, pourquoi la velle, au contraire, voit tout dans l'âme. Il n'y a pas tellement de différence au point de vue climat entre la velle et Merleau-Ponty. Et ainsi de suite, vous voyez. On se pose des questions, ou des questions d'ordre historique, dans l'ordre d'histoire, ou des questions dans l'ordre spéculatif. Dans l'ordre spéculatif, c'est le TST. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est la nature? Quelle est la nature du travail intellectuel? Bon, pour voir la nature du travail intellectuel, je regarde la matière de ce travail. Est-ce du bois? Est-ce du fer? Est-ce de l'ivoire? Est-ce du granit? Analogiquement, on est. Quelle est la matière d'un travail historique sur les textes? On dépend d'une bibliothèque. Si vous avez une bibliothèque dans laquelle il n'y a que les derniers travaux, à partir de l'an 1950, vous êtes assez vite coincé. Quand vous cherchez l'histoire du thomisme et que vous voyez que vous avez une bibliothèque uniquement à partir de 1950, il n'y a pas grand-chose. Très vite fait. Et dans tout travail historique, vous devez préciser les dates. Je vais faire ça de telle date à telle date. Et vous précisez la distance du travail. Vous précisez les époques. Autrement, c'est énorme. Depuis le déluge. Depuis le déluge. Qu'est-ce que devient le thomisme dans le déluge? Il n'est pas encore né. À quel moment est-il né? Qu'est-ce qui a fait qu'à la place d'étudier Thomas d'Aquin, on a étudié ses successeurs? Et on a oublié Thomas d'Aquin. Donc, retour à la source. Le véritable travail historique, c'est toujours le retour à la source. Et découvrir une source. Alors, tout bon scout sait très bien ce que c'est que découvrir une source. C'est intéressant. On suit un petit ruisseau. On remonte, on remonte, on remonte. Puis à un moment donné, plus rien. Alors est-ce que c'est la source? La source est toujours cachée. La source, vous passez du ruisseau que vous voyez. Plus rien. Alors, d'où vient la source? Est-ce que c'est à tourner à droite? Tourner à gauche, ça peut être ça. Est-ce que c'est aller plus loin? Bon, ce que vous faites matériellement, vous pouvez le faire du côté des documents. Vous avez des documents. Vous avez le travail de Thomas d'Aquin, des sentences. Vous recherchez le livre de Pierre Lombard, des sentences. Écrit par lui. Et voyez le texte que Thomas d'Aquin. Est-ce que c'est bien celui-là? Il y a eu des changements. À quel moment y a-t-il eu ce changement? C'est très intéressant. Si on se pose la question, si on se pose aucune question, on travaille comme un pauvre type. Je travaille parce qu'on m'a dit de travailler. Alors qu'est-ce que vous faites? Oh, je sais pas. Aucun intérêt au travail. Parce que je ne me suis pas posé la question. Quand vous faites un travail historique, vous faites un travail historique, mais vous devez, si vous êtes intelligent, vous poser successivement des questions qui ne sont plus historiques. La signification de tel terme, la signifie? La phusis, qu'est-ce que ça signifie? Et quand Thomas d'Aquin se sert de nature, il parle de la nature de Dieu. Et alors la phusis, c'est le point de départ du devenir physique. Il n'y a pas de devenir en Dieu. Alors pourquoi employer le mot phusis? À quel moment le mot phusis n'a plus été principe du devenir physique? Et que le mot phusis est devenu quelque chose de déterminé? La nature, c'est quelque chose de déterminé. Alors, vous pouvez prendre le quelque chose de déterminé, c'est l'essence. Ah, quelle différence de mots entre nature et essence. Vous employez le mot nature, vous employez le mot essence, mais c'est très différent. Oui, le travail est commandé par l'interrogation. Et c'est vrai pour tout travailleur. Il se pose la question. Je veux faire un hôtel. Ah non, pas du tout comme les autres hôtels, comme l'hôtel religieux qui est ici. Non, je veux. J'ai une conception, vous voyez. Quand vous avez une idée, vous avez un principe. Et ça vous donne l'orientation de votre travail. Et il peut très bien se faire qu'au cours d'un travail, on change l'idée. Et ceci, même au point de vue intellectuel. L'interrogation sur la signification, c'est un travail spéculatif, contemplatif. Ce n'est plus historique. L'historien cherche le devenir d'un mot. Et en voyant le devenir de ce mot, il voit que le mot lui-même a changé de signification. Alors, quelle est la matière du travail? Historiquement, les documents. Je travaille les documents. Toute la bibliothèque. La nécessité d'une bibliothèque. Au point de vue spéculatif, quelle est la matière? Ah, le mot. La signification du mot. Je vois ce mot utilisé différemment, dans des moments différents. Quelle est la signification? Que signifie ça? Est-ce que ça signifie la même chose quand j'emploie ce mot pour Dieu? Quelle est la nature de Dieu? Et quand j'emploie ce mot pour le bois, quelle est la nature de ce bois? Alors là, vous avez la matière d'un travail spéculatif, c'est les significations diverses de ce mot au plan philosophique. Quelle est son œuvre? Ah, ça dépend de l'interrogation. L'œuvre de l'historien, c'est d'expliquer à quel moment tel mot, telle recherche est apparue. À quel moment le mot évolution est apparu. À quel moment le mot solidarité est apparu. Parce que c'est un mot très, très connu, ça. Alors, on va faire un congrès sur la solidarité et la grâce et la charité fraternelle. Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Alors, l'historien et le critique cherchent et voient que le mot solidarité, ah, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas fait l'enquête, moi. Mais je connais quelqu'un qui a fait l'enquête. Le mot solidarité est apparu dans un contexte socialiste et marxiste. Hein? Puis il a été baptisé. Un grand baptême. Alors, est-ce qu'il a changé de nature en étant baptisé? Ou est-ce qu'il n'a pas changé de nature? Mais là, il y a matière à travail. Parce que c'est vrai. est un véhicule. Un véhicule. Alors, il est inventé dans un climat marxiste. Il véhicule avec le passeport marxiste. Hein, il véhicule avec le maillot jaune. Solidarité, 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 solidarité. C'est très bien, c'est très bien. On est tous pour la solidarité. Mais on l'est de quelle manière? Est-ce que ce mot peut être baptisé? Et on le voit dans des congrès chrétiens. Alors, je prends solidarité parce que c'est un mot très à la mode. Alors, c'est intéressant. Les mots à la mode, c'est toujours très intéressant de faire la petite enquête d'où ça vient. D'où ça vient ce mot. Mais notre intelligence s'aiguise en cherchant la signification des mots. Parce que beaucoup suivent. Ah, solidarité, mais qu'est-ce que ça veut dire, solidarité? C'est intéressant. Comme ça, des quantités de mots qui ont été à la mode, qui ont percé à tel moment. Il y a des mots qui sont comme des personnages qui naissent au milieu d'un climat tout à fait différent. Puis soudainement, un mot éclate et éclaire. Il devient à la mode de façon étonnante. Alors vous voyez, la matière est très variable. Et la grande différence entre le domaine d'une recherche spéculative et d'une recherche historique, être et devenir. Quelle est l'œuvre? L'œuvre, ça dépend d'interrogation. Vous voulez savoir si ce mot est né dans un contexte marxiste, dans un contexte chrétien. Le mot âme, le mot Dieu, le mot solidarité. Cherchez dans les psaumes, est-ce qu'on dit que Dieu est solidaire? Est-ce que je suis cherché dans les psaumes? C'est intéressant, il y a des mots comme ça que j'écoute dans les psaumes. Et ça m'intéresse. Alors, quelle est l'œuvre? Mais j'ai trouvé la solution. L'œuvre de l'historien est différente de l'œuvre du spéculatif. Travail spéculatif. Le travail historien, c'est découvrir à quel moment est apparu ce mot, dans tel contexte. Et si vous pouvez saisir la première fois où ce mot est apparu, le mot paraclet, à quel moment est-il apparu? C'est capital. C'est intéressant. Ça nous éveille. Le mot grec d'Aristote, le touti eneinain, traduit en latin par quiditas. À quel moment est-il apparu? Est-ce que Platon s'en est servi? Non. Aristote. Le mot entelecheia est-il dans Platon? Non. Il y a des mots à peu près semblables. Mais il n'y a pas de trait d'union. Ce sont des mots complexes, inventés par quelqu'un. Quand j'étudie un auteur, la première chose à faire, c'est de voir, est-ce qu'il a des mots clés qui reviennent tout le temps? Est-ce qu'il a inventé des mots? Et s'il a inventé des mots, on les merde. Oui, l'œuvre, c'est la réponse à l'interrogation. Alors que ce soit oral, dans un cours, c'est une œuvre. Un cours est une œuvre. Ça, c'est sûr, c'est une œuvre. Il a fallu travailler pour ça. Et on donne le résultat. Alors, l'œuvre, c'est aussi bien une œuvre historique. Découvrir. Spéculatif. une heure historique à l'intérieur d'une recherche théologique ou philosophique. Je vois cette œuvre historique, intéressante, voir ce qu'étaient les transcendentaux chez Albert le Grand, chez Thomas d'Aquin. C'est intéressant, puisque Albert le Grand était le maître de Thomas d'Aquin. Alors je vois que pour Albert le Grand, les transcendentaux, c'est res et un, le transcendantal des philosophes. C'est vrai et bien transcendantal des théologiens. Tiens, Albert le Grand distingue historiquement entre philosophes et théologiens, les transcendantaux. Saint Thomas ne fait jamais ça. Et Saint Thomas ajoute un cinquième à liquide. Comment se fait-il que Thomas d'Aquin ajoute un cinquième à liquide? D'où ça vient? Est-ce que c'est le contact avec Aristote ou pas? Albert le Grand, c'était Avicenne. Donc vous voyez la matière. Ça vient d'intéressant, ça dépend de l'interrogation. Vous êtes parti dans cette idée. J'ai lu Albert le Grand, je vois quatre transcendentaux, Saint Thomas 5. Ça me pose un petit problème. Si je suis un peu éveillé, si je ne suis pas éveillé, ce qui a été très longtemps, puisque les scolastiques ne se sont jamais posé la question. C'est récent, ça. C'est il y a 50 ans. On s'est posé la question. Comment se fait-il? Le mot essence et existence. Avec la scolastique, on a noyé le poisson, c'est jamais posé. Puisque Thomas d'Aquin dit nature et essence, c'est la même chose, très bien. Nature et substance, c'est la même chose, très bien. Ah, c'est quand même pas la même chose. Alors il y a des querelles religieuses quelquefois qui portent sur rien. De même nature que le Père, a dit le Fils. Non, consubstantiel. Ah! On dit consubstantiel, de même nature que le Père. Or, nature et substance, c'est pas la même chose. Donc, on ne va pas passer de l'un à l'autre. Et la plupart du temps, les querelles religieuses reviennent d'un manque de précision. On fait un blocage. Donc, il y a une œuvre. Dans tout travail, il y a une œuvre. Ça termine le devenir. Un travail philosophique demande-t-il de s'achever? Ça dépend. Il y a des travaux philosophiques qui sont en vue de la dissertation. Donc le travail s'achève dans la dissertation. Si, en passant un examen, on vous dit, faites cette petit travail, et puis si vous voyez l'étudiant se met en contemplation. Pendant une heure, le papier est resté blanc. Mais j'ai contemplé. Donc il aura 10 sur 10. On lui dira, mais c'était pas le moment de contempler, c'était le moment d'écrire votre dissertation. Donc, il peut y avoir comme finalité une dissertation, il peut y avoir comme finalité la contemplation. N'opposons pas. Comprenons que notre intelligence est faite pour une œuvre pratique et que mon intelligence est faite pour la contemplation. Soyez conscients de ces deux orientations et ne demandez pas, quand on est orienté vers une dissertation, qui est un facere. C'est un facere. C'est pour ça que dans une dissertation, quand vous êtes en face d'une feuille blanche, vous regardez le sujet. Plus vous le regardez, plus vous êtes complètement fermé. Pas un seul mot. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez tout de suite le contraire. Puisque tout mouvement naît d'un contraire. Ah. Soyez intelligent. Vous avez fait de la philosophie du devenir. Puisque vous avez fait de la philosophie du devenir, mais commencez par l'aspect dialectique. Et si vous êtes suffisamment instruit, Vous prenez deux grands philosophes, Aristote et Platon. L'un a dit qu'il y avait une éducation, l'autre a dit qu'il n'y avait pas d'éducation. Or, on vous pose un sujet sur l'éducation. C'est intéressant de voir celui qui a dit qu'il y a une éducation. Pourquoi l'a-t-il dit? Et comment l'a-t-il dit? Et pourquoi il a nié ça? Si vous pouvez prendre deux grands philosophes et vous appuyer dessus, c'est là où l'histoire est intéressante, topic historique. Ça vous aide énormément pour les dissertations. Donc, pour passer les examens, si vous n'avez aucune érudition sur les philosophes, vous essayez de réfléchir sur l'aspect négatif. On vous demande de parler sur la beauté. Regardez la laideur. Parce qu'au fond, la laideur est insupportable et la beauté vous séduit. Ah, on va commencer à demander séduction et répulsion. Et ainsi de suite. Puis voyez tous les mots semblables et vous dissertez de cette manière-là. Puis après, vous mettez un ordre dans tout ça. Il y a toujours deux moments. On jette ses idées sur le papier, puis on les met de l'ordre. Parce que vous n'avez pas tout de suite une intelligence ordonnée, surtout sur des examens. Alors vous jetez sur le papier tout ce qui est bon. Et c'est ça que vous faites pour un serment aussi. On vous demande de prêcher sur des, ou de faire une retraite sur des. Vous voyez tous les sujets. Et si vous ne voyez rien, vous allez demander à votre voisin qu'est-ce qu'il faut dire sur ce sujet. Si le voisin ne sait pas, il prendra le contraire. Réfléchis. Parlez sur le travail. Et parlez sur la paresse. Parlez sur le fait que vous n'avez pas fait votre travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous avons une intelligence qui se féconde elle-même par la dialectique. La dialectique a du bon dans la recherche. Aristote dit que la dialectique joue au niveau des opinions. Au niveau des opinions, c'est excellent. Parce que un caillou qui frotte sur un autre caillou, il y a une étincelle. C'est comme ça qu'est née, au dire des pères de l'Église, la théologie. Il y avait une parole. Non mutor, je ne change pas. Dieu qui dit ça. Et Jésus dit, le Père et moi, nous travaillons toujours. Donc on change de travail. On voit des oppositions dans le langage même de Dieu. Pourquoi? Alors deux silex qui se frottent l'un sur l'autre font jaillir l'étincelle. Et si vous prenez cette méthode dialectique, vous avez une possibilité d'entrer comme ça. Et vous arriverez toujours à dire quelque chose. Seconde question. Donc, vous voyez, c'est très bien parce que ça montre. Réfléchissez sur votre travail intellectuel. Chacun d'entre vous. Alors, est-ce que votre travail intellectuel est historique ou est-il spéculatif? Première interrogation. Est-il historique? Comment vous faites? Est-ce que vous avez eu soin de aller demander de taper à la porte de quelqu'un qui connaissait très bien le sujet pour gagner du temps, ça. Alors, ici, l'activité artistique suffit-elle à l'homme pour le développement de sa personne? Ça, c'est une très grave question. Parce que c'est la question de l'art et de la morale. Est-ce qu'il y a un développement vraiment humain qui se fait uniquement du côté artistique? Quand vous êtes en face d'un très grand artiste, peintre, compositeur, demander s'il est marié ou pas. S'il est marié, il avait la possibilité de voir son épouse et ses enfants. C'est intéressant. J'ai jamais rencontré Merleau-Ponty. J'aurais aimé le rencontrer. Étant à Fribourg, ce n'est pas toujours commode. Et j'ai rencontré une fois sa fille. Dans un repas de prémices. Religieux, donc. On m'a dit, la fille de Merleau-Ponty est là. J'ai demandé quel âge elle a. 16 ans, je dis, oh, c'est parfait. Parce qu'à 16 ans, on parle encore. Librement. Tu m'avais 18 ans, j'aurais pas eu quelque chose de spontané. Tandis que là, j'ai eu quelque chose de spontané. Je dis, ah, vous êtes la fille du philosophe Merleau-Ponty. Puis là, immédiatement, ça a jailli. Ah, c'est pas drôle d'être la fille d'un philosophe. J'en avais assez. Et là, j'ai dit, pourquoi? Parce qu'il ne pense qu'à ses idées. Papa y réfléchit tout le temps. J'ai beau être à côté de lui, s'en fiche. Il réfléchit à l'article, au livre qu'il est en train d'écrire. Et moi, je passe au bleu. Alors, c'est bien un double intérêt, hein, indéfiniment. Je dis, oui, mais c'est intéressant d'avoir un papa intelligent qui réfléchit. Tu lui demandes pas de t'aider dans ses dissertations. Tu devrais faire ça. Ah, j'ai jamais fait ça. Ah, vous avez raison, je vais faire ça la fois prochaine. Je dis, mais oui, il faut l'interroger, ton papa. C'est un philosophe, interroge-le. Alors, il s'intéressera à toi. Ah, bah, j'ai pas pensé à ça. Je me suis dit que j'étais bête et je ne pouvais pas l'intéresser. Mais il s'intéressera beaucoup à toi. Il faut le faire sortir de ses idées. Le faire sortir de tes idées, c'est d'être toi. Non pas un bloc de marbre à côté de lui, mais vivante. L'activité artistique suffit-elle à l'homme pour le développement de sa personne? Non. Autrement dit, peut-elle pleinement finaliser la vie d'un homme? Non. Je pose cette question parce que de fait, nous savons qu'il y a des personnes, des artistes, qui investissent entièrement leur vie dans leur art. C'est dommage. Et c'est dommage pour l'art lui-même. Parce que l'homme est plus que l'activité artistique. L'activité artistique vient de l'homme. L'homme est source de l'activité artistique. Si l'homme est source de l'activité artistique, si je ne soigne pas la source, elle va tarir. Vous aurez un jaillissement jusque 30 ans. Et à partir de là, ça va diminuer. Vous savez, c'est ce qui existe pour les mathématiques. On dit qu'à partir de 40 ans, on n'a plus aucune intuition mathématique. Originale, intéressante. Il faut travailler avant 40 ans. Vous ne dites jamais ça pour un grand artiste. Vous ne dites jamais ça pour un philosophe. Plus le philosophe prend de l'âge, s'il reste philosophe, plus il creuse. Pourquoi? Parce que le philosophe s'enrichit de l'expérience humaine. Et donc, il s'enrichit grâce à l'autre. Et pas uniquement de lui. Et il essaie de coopérer avec l'autre. Tandis que l'artiste, ça vient de lui. Alors, nous savons qu'il y a des personnes, des artistes, qui investissent entièrement leur vie dans l'art. Est-ce juste? Non. Sinon, comment dire à un artiste pour que votre art soit de plus en plus un absolu pour vous, il faut développer où votre amour d'amitié. Si vous êtes marié, si vous n'êtes pas, ayez de vrais amis. Artiste ou pas artiste, peu importe, homme. Et si vous pouvez contempler, entrer dans la sagesse philosophique, entrer dans la sagesse mystique, si vous êtes croyant. Voyez, c'est une question qu'il faut se poser, ça. Est-ce que l'activité artistique suffit? Est-ce qu'un homme peut dire « je ne me marie pas, je n'entre pas dans la vie religieuse, je veux soigner mon art et tout est pour mon art ». L'art n'est pas une finalité parfaite. Pourquoi? Parce que l'œuvre de l'art est inférieure à l'artiste. Elle vient de lui. Donc, alors, c'est vrai que pour les autres, quelquefois c'est beaucoup plus intéressant de voir l'œuvre que l'artiste. Pour Claudel, c'était comme ça. Je me souviens, moi, du moins, quant à moi. On peut aimer Claudel. Quand on est jeune, quand on a lu du Claudel et qu'on a la possibilité d'aller le voir, on dit « Oh, ce sera intéressant d'aller le voir. » Et j'avais des possibilités, parce qu'il connaissait très bien certains pères dominicains. Alors j'étais le voir. Je lui ai parlé, ça m'intéressait, puisque je faisais un cours sur la philosophie de l'art. Quelle est l'inspiration pour vous? Demandez ça à un artiste. C'est jamais la question qu'il faut poser à un artiste. Je savais rien, j'étais jeune. Alors, vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais textuellement. Je le voyais dans un appartement très riche, avenue Hoche, à Paris. Claudel parlant de la pauvreté, et c'était parfait. Et c'était merveilleux. Alors, il m'a dit, oh, vous savez, c'est facile. J'ouvre le robinet une heure par jour et je le ferme. Voilà la définition de l'inspiration. Et puis le lendemain, je ne relis pas ce que j'ai fait. Je l'ouvre encore. Je continue. Une heure par jour. Là, je tends, je vois des champs, je réfléchis, je lis des livres. Mais j'ouvre le robinet. Une heure par jour. Et le lendemain, j'ouvre le robinet et je continue. Mais pas de continuité. Et c'est vrai qu'il y a des discontinuités comme ça. Il se rappelle. Et c'est pas actuel. C'est très difficile de parler d'inspiration. J'ai essayé plus d'une fois. Des artistes, peintres, eux aussi n'aiment pas du tout parler de la rassuration. Rouault, je connaissais ses petites nièces. Alors, j'avais dit, j'aimerais bien connaître Rouault, parce que c'est un peintre qui m'intéresse. C'est un breton, alors ça m'intéresse. Cette espèce d'affirmation, cette espèce de chrétien impératif. Alors on m'avait dit, oh, faites attention, il n'aime pas les curés. Alors, si vous venez comme curé le voir, venez comme ami. Et puis c'est tout. Alors à un moment donné, on s'est mis à critiquer les critiques d'art, les curés critiques d'art. J'entends encore en disant, mais ces curés, mais qu'ils fassent leur métier comme nous ne faisons le nôtre. Leur métier, c'est pas d'être critique d'art. Leur métier, c'est d'être des témoins du Christ. Alors, le Christ n'a jamais été critique d'art. Et alors, il bondissait là-dessus. Il en avait pour. Et puis alors, il parlait du moment où Roux a fait ce geste. Il a brûlé 300 de ses tableaux. Alors, on dira que Roux est sadique. Il a brûlé 300 de ses enfants. Parce que ses enfants ne lui plaisaient plus. C'était pas ça qu'il valait. Alors je les ai brûlés. Je les vendais pas. Ils étaient pour la vente. Je les aimais pas. Je les aimais plus. Quand je les ai faits, je les aimais. Je les aimais plus. J'ai quand même le droit de changer de goût. Et de pas avoir devant moi toujours ces témoins qui ne sont plus des témoins de la réalité. Alors je les ai brûlés. Il a fallu l'entendre dire ça. C'est intéressant de voir la sincérité, donc la recherche de vérité, identifiée à la sincérité, momentanément. Mais l'art ne peut pas suffire à la vie humaine. Pourquoi ? Parce qu'il vient de l'homme. L'homme est source. Et l'homme a besoin de se dépasser. Seul, celui qui est plus grand que l'homme.